À Lubumbashi, sur 95,8. Le protiste cervico-vaginal est une maladie qui frappe plusieurs femmes, mais la plupart l'ignorent. Cette maladie se manifeste, paraît-il, par une sécrétion importante d'hormones mâles qui proviennent des ovaires des femmes. Des fois, il faut le dire, cette maladie débouche sur un cancer du col utérin chez les femmes. Aujourd'hui, nous en parlons parce qu'il y a eu des cas. Il est bon que les femmes soient sensibilisées afin d'attaquer cela à temps, d'attaquer la maladie à temps. Nous allons dans un instant rejoindre Nelly Cabena, elle va déjà être en ligne. Nelly, pour commencer, c'est bien que vous puissiez dire à nos auditeurs, c'est quoi exactement le frottisme cervical vaginal?
Avant de répondre à cette question, je voulais d'abord signaler que l'idée est venue suite à plusieurs séminaires qui parlent du cancer du col de la femme. Parmi les causes de ce cancer, il y a notamment le frottis. En plus clair, le frottis est une maladie.
Et c'est quoi exactement cette maladie? Parce que bon nombre découvrent ça pour la première fois grâce à vous, hein.
Évidemment, j'ai tenté de poser d'abord la question aux différentes femmes. Les jeunes, naturellement, affirment ne pas connaître le frottis. Elles l'associent plutôt à la perte blanche, comme c'est le cas de ces dernières.
En tout cas, je n'en sais rien.
Rien du tout.
Ah, je voulais savoir ce que ça veut dire.
Je n'en sais rien.
J'entends souvent parler, mais je ne sais pas vraiment ce que ça signifie.
Nous avons toujours entendu ça, mais la plupart des gens nous parlent que ce sont des liquides qui coulent au niveau de vagin de la femme. Oui. Les expériences que j'ai déjà faites pour les avoir, c'est quand je passe un peu, plus de 2 heures sans toutefois aller me laver. Mais je ne sais pas s'il s'agit de la maladie. Sauf que si tu te laves bien, ça ne va pas commencer à se développer.
Les réactions des jeunes filles, nous vous invitons tous les auditeurs de Radio Capi, hein, hommes comme femmes, à réagir d'ores et déjà au 081 070 20 50. Tout à l'heure, Nelly Cabena a suivi les jeunes filles s'exprimer. Beaucoup nous ont dit qu'elles ne savaient pas ce que c'était un frottis vaginal. D'autres encore nous ont dit, elle parlait de perte blanche. Mais là, c'était les jeunes filles qui se sont exprimées. Est-ce que c'est facile de s'apercevoir de cela? Et puis, c'est bien aussi d'avoir le point de vue des femmes à ce sujet. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit exactement, les mamans, à ce sujet?
Les mamans, justement, celles-ci ont une certaine connaissance de cette maladie des femmes. Hein? Voici leur réponse.
Ile froti ni banakupatia, banapandaka kitu sa vile watu pamba, unabeba ile vichafu, unabapatishia, nabo banaipima. Pakisha kuipima, banapata maresultante, batajua kama ile aperte blanche ni ya magonjwa, na batajua gisi, batakutunza.
Quand on parle de frottis, nous disons frottis vaginal. Donc c'est quoi? C'est le liquide vaginal qui peut être prélevé. On met sur une lame et on va analyser pour voir et déterminer quel genre de microbes, si la femme a une infection vaginale, afin de déterminer quel type d'antibiotique il prescrit afin de la guérir si elle est infectée par une infection quelconque.
Voilà, nous rappelons aux auditeurs que nous parlons du frottis cervical vaginal, qui est une maladie. Nelly, vous nous avez dit que l'idée de parler de cette maladie aujourd'hui à nos auditeurs est venue du fait que vous avez assisté à un séminaire qui a évoqué le problème du cancer du col chez la femme, le col de l'utérus chez la femme. Alors aujourd'hui, nous en parlons parce qu'il y a eu des problèmes. Est-ce que c'est facile de s'apercevoir qu'on a un problème de frottis pour commencer?
Que nous avons rencontré, elle nous a témoigné d'un cas. Là encore, le mystère subsiste. On ne sait pas si c'est de la perte blanche ou encore du frottis.
Je crois que la femme peut l'attraper à n'importe quel moment. Parce que de temps en temps, il y a, même quand on n'est pas enceinte, on peut avoir par exemple des démangeaisons au niveau des organes génitaux. Et quand il y a une démangeaison, c'est qu'il y a, ça ne va pas, c'est qu'il y a une maladie quelque part. Et il faut qu'on prélève ça pour qu'on analyse et détermine quel type d'infection. Il y a une infection pour qu'on sache quel médicament vous prescrire.
Voilà, on a suivi le point de vue d'une femme qui nous a dit justement que le mystère persistait et elle a l'impression qu'il faudrait plutôt passer un examen pour savoir si on a un problème de frottis alors que c'est une maladie. Alors d'où provient exactement le frottis? Qui peut l'attraper en fin de compte? Est-ce que ce sont les hommes ou bien seulement les femmes?
Justement, c'est une question technique, hein, et notre invité, qui est bien sûr un gynécologue, va bien éclaircir ce sujet. Il s'appelle Dr Cléophas Kalumba.
Alors, nous invitons tous ceux qui ont des questions à réagir déjà au 081 070 20 50. Hommes comme femmes sont invités, n'est-ce pas, Nelly Cabena?
Ok, c'est ça.
Alors, à plus. Invité au bout du fil, c'est un médecin, Dr Cléophas Kalumba, médecin gynécologue à Lubumbashi. Il est là justement pour nous donner des précisions en rapport avec ce dossier concernant une maladie dont on ne parle pas tellement. Il s'agit du frottis cervico-vaginal. Il est bien placé pour nous en dire un peu plus. Docteur, bonjour, vous êtes en ligne?
Bonjour, madame Lévis.
C'est madame Nicole. Alors, une précision à nos auditeurs, c'est pour la première fois que bon nombre entend peut-être parler de cette maladie dénommée frottis cervico-vaginal. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet?
Oui, merci beaucoup. Écoutez, en rapport avec, j'ai bien suivi votre introduction, vous parliez de frottis vaginal, en cas de perte, en cas de pleurite, de verre, etc. Mais ici, il est tout à fait différent de la frottis cervico-vaginal. Le frottis cervico-vaginal, il est tel qu'on l'appelle, c'est un prélèvement cellulaire au niveau du col utérin et de la partie profonde du vagin qui sera examinée par un examen, un médecin naturopathologique. Ainsi que nous vous disons que dans le temps en jeu, l'examen d'un corps strictement sain est très fréquent chez toutes les femmes, surtout par l'activité sexuelle intense. Donc pratiquement 25% à peu près sont des femmes et sont dotées de cols qui sont sains et normales. à ce niveau-là que ce prélèvement va nous permettre de pouvoir mettre en évidence les lésions cancéreuses, pré-cancéreuses et les lésions cancéreuses du corps, au niveau du corps utérin. D'abord, je ne sais pas si on sait, vous savez tout le monde que c'est le monsieur un col, etc. Il est assez différent de l'examen d'un produit cervical. Le produit cervical, c'est lequel? C'est lequel? C'est celui qui est fait. C'est une femme qui vient avec des pertes abondantes, et qui soit qui forme des grumeaux, ou soit ce qu'on appelle couramment l'aspect de la yaourt, qui se plaigne également depuis que ça compense. Voilà, on prend juste un effusion, on prélève, on amène ça à la culture, au niveau du laboratoire, pour pouvoir dessiner les germes qui sont mis en évidence. C'est super différent, donc, mais quand même, il y
a voilà, donc, il y a une maladie dénommée protiste, et autre chose, là, on parle d'un dépistage, hein. Mais il y a une maladie qui est dénommée protiste cervico-vaginale.
Non, pas maladie, mais une technique. Donc, on prélève. J'ai une femme qui est pleine de pertes abondantes. Et à chaque lever du matin, des fois, on se fait essuyer. Ou même au cours de la journée, et des fois, ce sont des pertes qui sont trop épais. Et pratiquement, on fait ce prélèvement, on met un écouvillon, pratiquement à l'enfant en position gynécologique, on place un féculent, on prélève ces liquides-là, enfin, ces pertes-là, qui sont très abondantes, on les met dans un flacon stérile qu'on va cultiver. On met en même temps au labo en cultivant.
Donc finalement, finalement, il vaut mieux parler d'un dépistage en fait qui concerne le frottis.
Oui, maintenant les frottis, ici nous sommes dans le cadre de, on va dépister. C'est des petites précoces, les cancers du col.
Voilà.
Hein, les cancers du col, parce que le sang subit beaucoup de remaniements au cours de la maternité, au cours de maladies sexuellement transmissibles, au cours de rapports sexuels, etc. Et ces remaniements évoluent progressivement vers un noyau du col. Alors, c'est ainsi qu'avec les produits cervico-vaginaux, ça va nous permettre de mettre en évidence ces lésions-là, de dépister ça à temps après de pouvoir prendre ça en charge.
Voilà, et donc on s'est conseillé à toutes les femmes. C'est conseillé à toutes les femmes de recourir à un dépistage de frottis. Hein. C'est quoi exactement un frottis, docteur?
Un frottis, c'est un prélèvement. C'est-à-dire, la femme est en position. D'abord, je dirais, ça concerne toutes les femmes à l'activité génitale. Les mariés, les non-mariés, ou qui ont beaucoup de partenaires, etc. Ça concerne toutes les catégories des femmes. Et cela parce qu'aucune femme ne peut épargner de ces cancers du col. Et qu'est-ce qu'on fait? La femme est en position gynécologique, on place un surélie, on place un succulent. On utilise une brosse au niveau du col. Là, on va prélever des cellules qui seront mises sur une lame pour être examinées, voir s'il y a remaniement de structures, si les structures, les cellules qu'on a pu mettre en exemple sont les mêmes que celles qui étaient, qu'on aurait pu normalement au niveau du corps. Voilà, on voit à peu près ça.
Voilà. Hein? Donc, grâce à ce dépistage, à cet examen, on peut tout de suite voir si la femme est exposée à un cancer du col utérin, si j'ai bien compris vos explications.
Oui.
Alors, quelles sont les femmes qui doivent être testées ou encore qui doivent recourir à ce test?
Bon, nous avons deux catégories de femmes. Hein. Nous avons des femmes d'abord à risque, c'est-à-dire des femmes qui ont plusieurs partenaires, qui échangent comme elles veulent, quoi. Hein. Donc, ce sont des femmes à risque qui n'ont pas beaucoup d'occasion de faire examiner. Et c'est là, nous souhaitons juste l'occasion, quand ils viennent pour toutes les petites consultations, que nous profitons pour faire des photos cervicales. Et nous avons également des femmes qui ont eu des lésions et qui ont été dépistées. Alors cette fois-là, nous faisons une fois l'exposé tous les 3 ans et on peut arrêter l'exposé à 65 ans. Et nous avons également des femmes qui n'ont pas eu de lésions. Lorsqu'elles sont allées faire examiner, on a fait des scrutins, il n'y a pas eu de lésions. Cette fois-là, nous faisons un scrutin cervico-vaginal chaque une fois par an. Et nous avons maintenant des femmes à moins de risque, des femmes mariées ou qui n'ont pas beaucoup de partenaires.
Voilà.
Cette fois-là, nous faisons une fois tous les 3 ans et on peut arrêter de faire
ce scrutin. Et toutes les femmes devraient faire ce test pour être sûres qu'elles ne sont pas exposées. À peu près à quel âge on peut faire ce test? Jusqu'à quel âge?
Ah bon, dès que la femme commence, parce que nous savons même parmi les facteurs favorisant du cancer du col, nous savons les relations sexuelles précoces, nous savons la maternité précoce, la municipalité, les femmes qui ont eu beaucoup de maternité, nous avons les femmes qui mènent une vie de délinquance, quoi, qui ont un champ de mari du jour au jour. Vous voyez,
ce sont des femmes-là qui sont beaucoup plus exposées.
Oui, aujourd'hui, comme on parle de plus en plus de la dépravation des mœurs, en République démocratique du Congo, ça veut dire que toutes les jeunes filles sont exposées, hein, puisqu'elles ont des relations sexuelles très précoces. Donc, c'est à partir de 18 ans, même avant, qu'on peut déjà recourir à un test de Strotis. Mais par qui devrait-il se faire ce test et comment le fait-on concrètement?
Ah oui, là c'est la question la plus importante. Mais je voulais aussi souligner une chose, même les femmes que nous avons dans la maison, dans les filles, ce que c'est fait, parce qu'elles font partie de la catégorie des femmes à moins de
10.
Vous comprenez?
Tout à fait.
Parce qu'on va se faire examiner. Donc, c'est le folie vitale, ça va servir, c'est ce qu'on va être pour toutes les femmes, toutes les coups de femmes. Ensuite, comment le faire?
Et qui le fait? Qui devrait le faire, normalement?
Qui va le faire? Après, si c'est un médecin, gynécologue qui fait le prélèvement, ou soit un médecin gynécologue, c'est un médecin anatomopathologiste. Qui doit faire cet examen.
Pas un infirmier, ce n'est pas un infirmier, parce que bon nombre nous ont dit que c'est souvent des infirmiers qui font ce genre d'examen.
C'est un acte qu'un infirmier ne peut pas poser. Les infirmiers exécutent les ordres du médecin.
Mm-hmm.
Il va poser un acte, c'est pas un acte que le médecin doit poser.
Mm-hmm.
Hein? Un infirmier ne peut pas poser ces actes.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qui se fait? On prélève au niveau, on utilise une brosse d'air, au niveau du corps, soit bien sûr, une statue, on racine un peu les cellules, on met ça sur l'âme. Et bien fixé, on amène ça au microscope pour pas pour être analysé.
Mm-hmm.
Voilà comment ça se fait.
Voilà. Et à quel moment, à quelle période exactement? Parce qu'il y a peut-être des jeunes filles qui nous suivent et des mamans, pourquoi pas, qui aimeraient savoir si c'est pendant la période des règles ou pas. Ça, c'est une question qui a été posée par un auditeur.
Non, ça ne doit pas se faire pendant la période des règles. En dehors des règles, surtout à la première partie du cycle. Hein? Et en dehors de des ovules, j'ai aussi un rapport à un dehors des relations sexuelles, un rapport des rapports, soit 24 heures avant, on doit utiliser et qu'on doit faire ce scrutin. Et également en dehors des infections cervico-vaginales, parce que vous savez très bien que les infections, notamment les cervicides, sont aussi parmi les causes prédisposantes de dysplasie du col.
Voilà.
Donc c'est à ce niveau-là, donc on doit respecter ces conditions-là. Et aussi, quand on doit faire ça, il faut le faire en face aux toilettes vaginales.
Mm-hmm.
Chez les femmes ménopausées, il faudra qu'on prenne soin de pouvoir un peu injecter un peu d'hormones, notamment les estradiols. Voilà.
Peut-être que le fait que tout à l'heure notre consoeur nous a dit que l'idée de parler de Strotis, de dépistage de Strotis est venue à l'issue d'un séminaire, puisqu'on a eu à relever le fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui souffrent du cancer du col de l'utérin, le col utérin. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les statistiques aujourd'hui en République démocratique du Congo?
Les statistiques.
Oui.
Alors bon, c'est tout simplement ce qu'il faut savoir est que en dehors du cancer du sein, le cancer du col est l'une des grandes pathologies qui tue dans notre contrée. Bien sûr, du cancer du sein. Ici chez nous, c'est beaucoup plus le cancer du col. Donc le cancer du col occupe la deuxième position après le cancer du sein.
Voilà. Mais alors, aucune idée sur le nombre de femmes qui en souffrent? Une idée sur les statistiques?
Bon, les statistiques, on n'a pas fait une étude réseau, enfin, une étude prospective, mais nous référons beaucoup plus aux études françaises qui ont été menées. Et qu'actuellement, comme la science évolue, il faut donc que nous puissions penser qu'on s'en fout qu'on a ouvert. Actuellement, nous sommes en train de faire des dépistages de cancer du col, des choses de cervico-vaginal chez des femmes qui viennent au clinique, à l'SMC, etc. Et tout ça, ça permet d'avoir un peu une idée sur l'ensemble de la vie de l'imagie, sur les femmes, combien de femmes qui sont vraiment sur l'échantillon, combien de femmes souffrent de cancer du col.
Alors, docteur Cléopas Kalumba, nous rappelons que vous êtes médecin gynécologue. Je ne sais pas si c'est à tort que nous raisonnons, nous avons un tel raisonnement, parce que nous remarquons qu'il y a d'autres femmes qui les frottissent, en parlant en termes de pertes blanches, qui sont en grande quantité par rapport à d'autres. Qu'est-ce qui expliquerait cela?
On peut répondre à votre question. Allô?
Donc, nous remarquons une certaine différence, on trouve même des femmes, il y a certaines parmi elles qui ont une grande quantité de frottis, donc des pertes blanches par rapport à d'autres. Qu'est-ce qui expliquerait cela?
Quand les femmes se plaignent de pertes blanches, donc sur le plan de mécorée,
abondante, c'est tout à fait différent du cancer du col. Ici, ce n'est qu'une exception des maladies d'origine, infection de maladies sexuellement transmissibles, notamment ce soit d'origine sodophagique, etc., ou soit de plein d'autres pathologies. Ils sont catégorisés par le parmi les maladies sexuellement transmissibles. Tout comme le cancer du col aussi, pour les femmes qui ont été en contact avec l'humain papillomavirus, développent également le cancer du col. Et pour ce, à ce niveau-là, qui nous contient également le cancer du col comme étant une pathologie comme une maladie sexuellement transmissible. Mais la plus grande différence, quand une jeune femme vient se plaignant parmi les motifs de consultation, le corée, le médecin qui l'examine devra chercher et fouiller les antécédents et examiner les liquides afin de perte, en déterminer l'origine et les germes qui pourront être éventuellement mis à l'évidence. Et cela nous demande qu'on puisse faire isoler les germes et préconiser une antithérapie.
Oui, donc toutes les femmes sont prédisposées, ou d'office, toutes ces femmes-là ont de leucorrhée, et aussi toutes les femmes ont des fœtus cervico-vaginales. Hein? Donc à quel âge exactement on peut déjà le remarquer?
Non, c'est-à-dire ne faites pas la confusion. Les fœtus cervico-vaginaux, la fœtus vaginale, c'est tout à fait différent des fœtus vaginales. Les fœtus vaginales, nous les faisons en tant que tas tel que vous êtes de leucorrhée, tandis que les fœtus cervico-vaginales, nous les faisons en cas d'épisode du cancer du col. De l'écorée, nous voulons déterminer les germes qui sont mis en évidence, dans l'isotique, etc.
Mmh.
Hein, vous voyez ça.
Mmh.
Et toutes les femmes qui sont en rapport sexuel, enfin qui sont dans l'activité génitale et font des rapports sexuels couramment, elles sont prédisposées à faire des cancers du col.
Mmh.
Je sais qu'il y a eu beaucoup de maternité.
Voilà. Hein. Et il faut aussi préciser, docteur, le fœtus vaginal peut être fait par un infirmier ou une infirmière, tandis que le fœtus cervico-vaginal, c'est seulement un médecin qui peut le faire.
Oui, le frottis. Un infirmier, d'ailleurs, même le prélèvement est fait par le médecin. En cas de frottis vaginal, le prélèvement est fait par un infirmier, par un médecin qui est dans un échantillon, qui le dépose au niveau du laboratoire, il doit être examiné par un laboratoire. Actuellement, nous avons beaucoup plus de laboratoires au niveau des hôpitaux. Et beaucoup plus d'examens sont beaucoup plus confiés, mais là, on est aux médecins qui font les labos.
Oui, mais il y a aussi les infirmiers qui font des examens, hein. Ça c'est connu, il y a d'ailleurs un auditeur qui le dit. C'est ça.
Oui, ben est-ce qu'il arrive aussi que vous faites ce prélèvement, donc par rapport au fœtus cervico-vaginal, que vous retombiez comme ça, il n'y a pas de cas de cancer, de col utérin?
Si, ça arrive, cette fois-là, quand on a fait un premier dépistage, il est sain, on a le droit de revenir.
Voilà, donc on peut retenir que le frottis vaginal est totalement différent du frottis cervico-vaginal. Oui. Elle n'est pas profonde à une maladie, c'est pratiquement des prélèvements, pas autre chose. Oui. Ok, tout, les auditeurs sont revenus sur cette réaction, si vous pouvez peut-être leur expliquer.
Oui, et entre aussi en détail, le frottis vaginal peut conduire à quoi? Qu'est-ce que cela a comme conséquence? À donner quel type de maladie? Tandis que le frottis cervico-vaginal, vous l'avez précisé, vous pouvez être exposé au cancer du col utérin. C'est bien ça?
Oui, voilà. Donc, quand nous parlons des frottis cervico-vaginal, c'est là où nous référons juste au cancer. Nous évitons donc, nous voulons dépister et faire un dépistage précoce des lésions précancéreuses, des cancers du col, pour une bonne prise en charge. Tandis que lorsque nous faisons des frottis vaginal, nous prélevons les pertes qui sont dans la cavité vaginale, et nous amenons au labo pour la culture et dans le domaine de l'antibiogramme.
Mais pour quel objectif? Pour quelle finalité?
Ah oui, parce que c'est là, vous disiez, c'est plein de pertes. Chaque fois qu'il arrive le matin, il met son slip essuyé et mouillé de pertes.
Mm-hmm.
C'est gênant. Ou aussi, il doit faire son bain chaque heure, à 10h, à 12h, etc. Oui, c'est un peu gênant.
Mm. Ouais. Alors, c'est toujours bien de préciser à nos auditeurs, docteur.
C'est remis en cause, le frottis vaginal.
Puisque nous parlons aujourd'hui du frottis cervico-vaginal, qui est un examen qu'on demande à une femme, vous avez dit une femme qui a conçu, qui a eu plusieurs maternités, une femme qui est active, qui a eu plusieurs partenaires et une autre qui a été précoce, autrement dit qui a eu des partenaires très tôt. C'est toujours bien d'être précis parce que bon nombre ne comprennent pas toujours. Quels sont les symptômes qui peuvent en découler, c'est-à-dire quand vous êtes exposé au cancer du col, quels sont les symptômes que vous pouvez avoir? pour bon, continuer.
D'abord, lorsque le cancer a, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la coloration missionnaire, ça, pratiquement, c'est pour voir bah, si, quand on a placé, on a essayé de mettre les chines, enfin, les produits au niveau du, enfin, fait des délicats, on a mis des produits au niveau du corps, qui sont des couleurs, on voit que la partie qui n'a pas changé ou qui a viré autrement peut être l'objet est suspect. Mais ici, dans ce cas espèce, nous disons que toutes les femmes en activité génitale intense, elles sont prédisposées. Toutes les femmes qui ont fait la maternité, qui ont eu beaucoup de maternité, sont également exposées. C'est pour réparer, pour éviter tout cela, nous prenons la tranche d'âge des femmes qui ont eu des relations précoces, qui ont eu des maternités, doivent être examinées.
Mais est-ce qu'il y a des symptômes, qui peuvent prévenir, autrement dit, qui peuvent montrer à la femme qu'elle a un problème de cancer de col? C'est ça aussi la grande question, parce que vous savez que bon nombre de femmes ne vont pas à l'hôpital régulièrement juste pour qu'on leur fasse ce type d'examen.
Voilà, je vous suis bien. Lorsque le problème au niveau du corps, nous avons d'abord la première des choses, c'est l'hémorragie de contact. L'hémorragie, lorsque nous sommes dans le cas de lésions précancéreuses, il n'y a pas de signes patents. Mais lorsque nous sommes, il y a déjà des systèmes déjà installés, nous avons l'hémorragie de contact. C'est-à-dire même à l'intromission du pénis, il y a le sang qui fonctionne. Quand on fait du gel vaginal, il y a du sang qui vient. Donc, si on n'a pas l'hémorragie de contact, ça interpelle les gynécologues. Et pouvoir demander à quelqu'un pour faire un faux pied.
Mais sinon, la femme ne ressent aucun douleur, celle qui est, prédisposée.
Quand on s'entend parce que nous avons d'abord au niveau du corps, ça évolue, nous avons d'une façon symptomatique, symptomatique, après nous avons les symptômes qui apparaissent, il y a maintenant des douleurs, et les douleurs qui s'ensuivent, et en fin de compte, il y a l'amaiblissement, si je pense qu'il doit faire beaucoup de sang, il y a l'amaiblissement également qui s'installe. Et cette fois-là, nous sommes dans le stade irréversible, que la femme, on peut tout faire, donc ça, c'est irréversible.
Alors, donc, qu'est-ce que vous demandez qu'est-ce que vous demandez aux femmes, ou vous proposez aux femmes, est-ce qu'elles doivent faire les examens, dans quelle fréquence? Donc, c'est à tout moment, ou comme il n'y a pas de septembre sûr, hein, pour qu'on c'est puisse affecter, alors qu'est-ce que vous voulez conseiller?
Voilà. Pour les femmes en activité génitale, les femmes qui sont mariées pratiquement, qui ont à moins de risques, demandent de faire une fois les photos vaginales par an, en fait, tous les 3 ans.
Alors,
qui ont plusieurs partenaires.
Une fois tous les 3 ans.
Nous leur demandons de faire une fois par an, tous leurs soins, en fait, les photos vaginales.
Et pour celles qui ont plusieurs maternités, qu'est-ce que vous leur conseillez?
Oui, ça, au Québec, ça fait une fois tous les 3 ans, celles qui sont, qui ont reçu le genre de matérialité.
Alors, parlons un peu de traitement de ces fautis cervico-vaginales. Quand on remarque qu'il y a un cancer, comment ça se passe, ces traitements?
Bon, écoutez, ça dépend. Hier, on procède à des bombardements, par exemple, dans les bombardements, des méthodes radiochimiques, après une radiothérapie. Mais ici, on n'en a pas. Hein, que nous faisons ici, lorsque nous avons, par exemple, au stade, ici, que nous avons les cancers in situ, nous faisons une hystérectomie.
Oui, c'est curieux, docteur, quand bien même on demande, disons, on remarque que les femmes qui n'ont pas eu à avoir des exercices sexuels avant à un certain âge requis, sont prédisposées à ce que nous appelons les myomes. Hein, donc, ils provoquent l'utérus devient myomateux. Mais aujourd'hui,
ça,
vous avez...
Ça, c'est notre problème.
Oui.
C'est notre problème d'accumulation hormonale. Hein.
Tout à fait. Aujourd'hui... Alors, aujourd'hui...
Ça, c'est en dehors, au moins, du cancer du col.
Oui. Ah, d'accord, ok.
Alors, pour terminer, hein, parce qu'il est bon de conclure sur cette question, bon nombre aimerait connaître le coût de cet examen. Vous avez conseillé aux femmes de le faire une fois tous les 3 ans, mais ça coûte combien?
Bon, ici, chez nous le faisons gratuitement. Toutes les femmes qui viennent consulter chez nous, le faisons gratuitement.
Où, dans quel hôpital,
nous devons,
exactement?
Bon, nous devons, parce qu'avec le service d'anatomopathologie ici, localement, pour des raisons d'études. Le médecin nous a accordé cette faveur.
Oui, mais c'est où exactement? Parce que c'est toute la RDC qui vous suit, hein. Où exactement, à Le Beaumarchais?
Oui, à SNCC, on doit voir docteur Capuzzi. Ok, universitaire, on peut nous emmener docteur François Kalumba et à la CNG, docteur Kinekinda.
Et c'est gratuit, hein, dans toute la ville de Lubumbashi.
C'est gratuit, on prélève, vous actez votre fiche, vous consultez, on a profité pour faire également votre profil.
Et ailleurs, vous n'avez aucune idée, ailleurs, en RDC, comme
c'est juste, à Kinshasa. Bon, ailleurs, jusque-là, non.
Docteur Cléophas, nous vous remercions d'avoir été des nôtres et d'avoir surtout répondu aux questions des auditeurs. Hein. Beaucoup ont réagi, raison pour laquelle nous avons posé beaucoup de questions. Nous en reparlerons parce qu'il est toujours bon de sensibiliser la population sur les différentes maladies qu'on rencontre dans le monde. Hein. Merci encore et à la prochaine.
Ok, merci beaucoup.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission au Capi Action de ce vendredi 27 avril 2007. Tout de même, nous vous rappelons les sujets que nous avions eu à aborder au cours de cette émission. On a d'abord été au Congo-Brazzaville, où nous avons parlé de la carte de séjour des étrangers qui vivent au Congo-Brazzaville. Et comme on le sait, deux tiers des ressortissants de la RDC vivant dans ces pays voisins n'ont pas leur carte de séjour. Nombreux estiment que les deux pays étant très rapprochés, les autorités de la part et d'autres du fleuve Congo ne devaient pas exiger les papiers à leurs deux peuples. Vous avez suivi le colonel Jean-Yves Alakoua, porte-parole de la police du Congo-Brazzaville, qui nous a apporté quelques éclaircissements. Et ensuite, autour de 9h30, 10h, nous avons été avec Marcel Ngombo pour parler de Joie Kinshasa autour de ce sujet état des lieux sur le recrutement des agents et fonctionnaires de l'État. Et on a eu comme invité Pierre Kita, le secrétaire permanent du CITRAP, comité technique de la réforme de l'administration publique. Flambée des prix sur les marchés de Kinshasa, nous avons reçu pour cela Bonnie Mouawatadi, secrétaire général à l'économie, et puis on s'est rendu à Goma pour retrouver cet ONG qui s'appelle Qui dit mieux et qui ramasse les sachets pour en faire des œuvres d'art. Le point de chute, c'était l'Oumashi avec le processus cervico-vaginal. Voilà, Nicole, le point que nous avons eu à aborder au cours de cette émission et le rendez-vous pris pour la semaine prochaine.
Oui, tout à fait. Nous profitons de l'occasion pour remercier tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont réagi également, ceux qui nous ont aidés pour la réussite de cette émission. La mise en onde, il y avait Eric Sidiakala, la réalisation Marcel Concou. Cette émission a été coordonnée par Nathalie Moteba. Passez un excellent week-end en compagnie de Radio Capi. Bon début de semaine à tous ceux-là qui nous suivent à travers le pays.